On a tous et toutes des sujets de prédilection. Bon, vous avez remarqué, moi j'en ai beaucoup. Mais entre autres, j'adore la géopolitique parce que ça me permet de comprendre comment le monde évolue. Et puis c'est ce que j'essaie de faire à travers Vlan, de vous expliquer comment ça marche. Et puis la technologie, parce que d'abord j'y ai passé quelques années, mais aussi parce qu'elle nous entoure et en fait elle construit nos vies. Et donc, quand on mixe les deux, cette intersection, elle me semble passionnante, la technopolitique de la technologie. Et j'ai l'immense plaisir de recevoir une personne que je connais depuis un petit moment, qui s'appelle Asma Mala, qui vient de sortir un ouvrage qui s'appelle « Technopolitique, comment la technologie fait de nous des soldats ». Je trouve que cette discussion, elle est évidemment un petit peu pointue, mais en même temps passionnante, parce que ça va vous permettre de comprendre pas mal de choses, des éléments que vous ne maîtrisez pas, que vous ne comprenez pas nécessairement. On va essayer de vous mettre tout ça de manière assez cohérente sur une petite heure. J'espère que l'épisode va vous plaire. N'hésitez pas à mettre des pauses si c'est trop compliqué de temps en temps. Je challenge pas mal Asma. Je vous laisse écouter l'épisode. Allez, Vlan, c'est parti. Donc bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Asma.
Bonjour Grégory.
Comment tu vas?
Je vais pas mal du tout.
On se retrouve?
On se retrouve.
On se retrouve, on se connaît depuis longtemps. Qu'est-ce que, pour toi, en quoi, disons, la technologie est un élément stratégique clé qu'il faut regarder, observer de près? En quoi c'est en train de rabattre les cartes finalement?
C'est la question, la question à un million, et c'est la grande question qui va nous mobiliser collectivement tous. Ou plutôt, si je recommençais ma réponse et mon raisonnement, il va y avoir, si tu veux, deux grandes questions majeures qui vont être notre défi collectif du 21e siècle. La première, qu'on connaît tous, c'est la question climatique. La seconde, c'est la question technologique. Et pourquoi? Parce qu'elles sont globales, elles sont transverses, elles sont transfrontalières, on en parlera peut-être. Et surtout, elles sont systémiques. Ce ne sont pas simplement un champ, ce n'est pas un domaine. Ça me fait toujours un peu rire qu'en France, on ait le ministre délégué ou le secrétaire d'État au numérique. C'est totalement, je dis bien, absurde. Ça ne peut pas s'envisager, ça ne peut pas se traiter comme ça. Et donc, c'est plus que même stratégique. C'est en fait, en tout cas dans la question technologique, et si on fait même une focale sur l'intelligence artificielle, c'est aujourd'hui un nœud qui est en train de recomposer à peu près tout, c'est-à-dire l'ordre mondial, les rivalités stratégiques entre nations, mais nos liens, la façon dont on s'informe, le travail. Donc, en réalité, ce ne sont pas simplement des outils, ce sont en réalité, et c'est ce que je raconte dans Technopolitique, ce sont des infrastructures informationnelles, mais qui sont aussi civilisationnelles, à partir desquelles est en train de se déployer de nouvelles façons de faire, d'être. Et c'est ça qui est absolument fondamental à comprendre. Et c'est là aussi où on fait tous un peu l'erreur, générale, collective, en France en tout cas, dans le débat public, parce qu'on est pris de vitesse, parce qu'on traite l'actualité au moment où elle arrive, donc à chaud, et donc on ne fait que la commenter en général, et on a beaucoup de commentateurs d'ailleurs. L'erreur qu'on fait, c'est de prendre ces outils ou ces technologies-là en silo, au moment où elles arrivent. Donc là, c'est l'intelligence artificielle générative. Mais avant ça, rappelez-vous, c'était le métavers. Et puis encore, à un moment donné, on était un peu plus rentré dans le champ géopolitique avec les cyberattaques.
La cyberattaque,
Les réseaux sociaux. Demain, le métavers va revenir et je fiche mon billet qui va revenir parce que c'est un espace géopolitique et de conflictualité maximale. Et donc, on fonctionne, si tu veux, par buzzword, par effet de mode. Or, c'est précisément ce qu'il ne faut pas faire. Et tout ce que j'essaye de faire, moi, dans mon travail, c'est de comprendre le système global qui les lie. Ce ne sont pas simplement des pièces détachées, c'est d'essayer de comprendre l'image, le puzzle, de le remettre en ordre pour essayer de comprendre comment est en train de s'articuler le nouveau siècle, le 21e siècle. Parce qu'il y a des nouvelles formes de pouvoir autour de ces questions-là.
Moi, ma compréhension des problématiques systémiques, c'est que et en fait, ça va beaucoup dans le sens de ce que tu racontes. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je dis souvent que je suis un généraliste parce que je crois que être expert, c'est indispensable, c'est très important, on en a besoin. Mais quand tu es dans une crise systémique, l'expertise ne fonctionne plus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu essayes de résoudre les problèmes un par un, en fait, tu ne les résous pas. Déjà, il faut avoir la bonne question. Et en fait, quand c'est systémique, le problème, c'est qu'il est dans les liens. Oui. J'ai entendu cet exemple sur un autre podcast qui s'appelle Sismique, d'une personne très, très, très intéressante qui disait, en fait, c'est comme dans une famille. C'est-à-dire que s'il y a un problème avec une grand-mère, par exemple, ça a des impacts sur les petits-enfants, les enfants entre eux, les oncles, les tantes, etc. etc. Tu ne peux pas juste remplacer la grand-mère et d'un coup, c'est résolu. Parce que ça ne fonctionne pas. Oui. Ça ne fonctionne pas. En fait, ce qui est important, quand tu es dans des crises systémiques, ce sont les liens. C'est les liens qui sont en crise. Ce n'est pas tant un élément ou un autre, ce sont les liens. Et donc, l'important, quand tu réfléchis à ce genre de problématique, c'est pour ça qu'effectivement, le ministère du numérique, c'est complètement dépassé, c'est-à-dire qu'en fait c'est un truc qu'il aurait fallu faire il y a 20 ans, mais aujourd'hui ça, enfin tout est, moi j'ai toujours dit ça, tu vois, quand c'est de la transformation numérique, ben en fait tout est numérique, donc en fait c'est un accélérateur éventuellement, tu vois, mais de la transformation, mais enfin bon, globalement il n'y a pas de transformation numérique comme il n'y a pas de
voilà. Et il y a beaucoup de sujets qui ne se jouent pas du tout à échelle nationale.
Ça se joue plus rien, se joue au niveau national.
Sur les questions globales et transverses comme ça, c'est bien tout le problème. Donc et ce que tu dis sur les liens est très juste. J'adore ton exemple sur la grand-mère et que tu disruptes, la grand-mère disruptée. Ça, c'est génial. Et ça fait écho à quelque chose. Alors, j'adore la conversation qu'on est en train d'avoir parce que je sens qu'elle va aller dans tous les sens et il n'y a strictement rien de scripté. Rien. D'autant que j'avais complètement oublié de t'envoyer mon livre et j'en suis désolée.
Oui, mais j'ai préparé. Et c'est un sujet que je connais bien, donc tout va bien.
Oui, c'est clair. Non, mais la question du lien, Grégory, elle est géniale. Parce que tu sais que dans le champ géopolitique et géopolitique de la tech, ce que toi, tu appelles lien dans le champ de la famille, dans le champ géopolitique, on appelle ça les interdépendances. Et la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que la technologie est en train de, si tu veux, formaliser, donner corps à d'autres interdépendances. Et ce qui est incroyable, ce qu'on est en train d'observer actuellement, c'est que ces interdépendances technologiques, voire même parfois ces dépendances technologiques, d'où d'ailleurs tous nos questionnements sur les questions de souveraineté quand on est des petits pays technologiques et périphériques comme l'est la France, sont aujourd'hui arsenalisés, conflictualisés. Ils font partie de ce qu'on appelle la power politics ou la politique de puissance des États, et en particulier des États forts, ce que moi je décris comme des big states. Et ce qu'on observe, c'est exactement ça. La question technologique aujourd'hui, prise sous le champ de son interdépendance, est un enjeu de conflictualité, de rivalité entre qui ? Entre États-Unis et Chine, par exemple. Avec la fameuse troisième voie potentielle européenne qui n'arrive pas tout à fait à se dessiner au-delà de la simple norme. On y reviendra peut-être d'ailleurs sur notre manque de vision, d'ailleurs, en termes de politique techno-industrielle. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien, on fait, mais je ne suis pas sûre qu'on le fasse bien. Il nous manque toujours cette histoire de vision. Donc, pour rejoindre ce que tu dis très justement, il y a évidemment la question d'avoir une compréhension système globale. Ça ne suppose pas du tout qu'il n'y ait pas d'expertise, au contraire, mais il faut aujourd'hui avoir la double échelle, hein, c'est-à-dire la focale, les experts. Alors, comment tu montes l'algorithme, qu'est-ce que c'est, hein? Et à partir de là, qu'est-ce que ça raconte du monde qui est en train de se construire, qui est en train de se narrer, la narration, sous nos yeux? Parce que la conséquence derrière, la vraie question, elle n'est évidemment pas technique, elle est politique, c'est de se dire, s'il y a une autre histoire qui est en train de se faire, qui est en train de se raconter, quelle part, nous autres, on va prendre à cette histoire-là, à cette écriture-là? Et il ne s'agirait pas, comme pour la question climatique, qu'elle nous passe sous le nez cette fois-ci. Et on ne dira pas, cette fois-ci, qu'on ne nous a pas prévenus. Et donc c'est aussi toute cette prise de conscience à froid. Tout à l'heure, je parlais de commentaires à chaud de l'actu. C'est tout le contraire aujourd'hui qu'il faut faire. C'est prendre le pas de côté. C'est décélérer précisément parce que le monde s'emballe.
Peut-être que pour les gens qui nous écoutent, c'est une question très simple, mais en même temps qui est à mon sens essentielle parce qu'elle est simple, justement.
Oui.
En quoi la tech est un élément géopolitique ?
La tech est un élément géopolitique parce que il est aujourd'hui un des véhicules de ce qu'on va appeler la projection de puissance. Je vais donner un exemple extrêmement concret pour ne pas faire de la théorie blablateuse et un peu bavarde. Aujourd'hui, le monde tel qu'il est en train de se dessiner, si on fait un petit tour rapide de géopolitique, vraiment pour les nuls de base. 1989-1990, chute du mur de Berlin, la fin de l'histoire, Fukuyama. Bon. Et on a cru tout d'un coup, quoi ? Qu'est-ce qu'on a cru tous collectivement à ce moment-là ? Que l'idéologie dominante d'une certaine façon et le modèle politique dominant seraient les démocraties libérales. Et puis, on va accroître ça, on va augmenter ça de la mondialisation, la globalisation de l'économie. Pensant que donc, en créant ce vaste marché global et mondial, on assurait d'une part la paix, d'autre part, cette déconflictualisation, puisqu'on sortait donc définitivement de la guerre froide. Et puis ensuite, que ça mettrait à niveau un certain nombre de pays qui tout d'un coup convergeraient vers notre modèle. Avec en ligne de mire, en particulier, la Russie et la Chine. Bon, en réalité, qu'est-ce qu'on a observé ? C'est à peu près tout l'inverse. C'est qu'on a eu cette militarisation de l'économie. Aujourd'hui, quand vous avez un ascendant sur un pays, parce qu'il est dépendant de vous, l'Europe, des États-Unis sur la question technologique, vous avez un rapport de force sur lui. Vous n'êtes pas à égalité dans les négociations et dans la transaction. Or, les relations internationales sont transactionnelles. Ça, c'est un premier exemple. Donc, la question technologique qui, aujourd'hui, nervure toute l'économie, mais aussi le militaire, si vous êtes en dépendance d'un autre pays, vous voyez le déséquilibre que ça fait et la dépendance que ça crée en termes de souveraineté. Bon, ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément qu'on voit, qu'on observe aujourd'hui, qui est totalement acté, je crois, c'est la multipolarité du monde. Il n'y a plus l'hyperpuissance américaine gendarme du monde qui surplombe le globe et puis le reste du monde qui vit ou qui en est dépendant. Aujourd'hui, vous avez la Chine qui a des velléités de superpuissance et qui le déclare et qui le déclame et qui d'ailleurs œuvre pour ça de façon extrêmement claire et affichée. Et puis vous avez des puissances régionales qui ont aussi des velléités. La Turquie, l'Iran, Israël dans son champ, la Russie évidemment. Donc il y a un éclatement. À partir du moment où le monde éclate, vous avez la question technologique pour répondre à cette question qui en devient un outil, un véhicule de cette projection de puissance. Exemple, la Turquie, dont on parle assez peu d'une certaine façon, qu'est-ce qu'elle a développé ? En se disant, ok, moi je ne serai jamais une hyperpuissance, c'est impossible en l'état. En revanche, je vais développer une stratégie de niche, les drones. Et elle a développé toute une diplomatie qu'on appelle la diplomatie des drones en Turquie, et en particulier à destination, par exemple, de l'Afrique. Mais pas que. La rivalité entre États-Unis et Chine se joue autour de quoi ? De la technologie. Et en particulier de quoi ? De l'intelligence artificielle. Et en particulier de quelle intelligence artificielle ? Des IA militaires. Parce que la guerre qui est en train de se jouer, ou qui se jouera, c'est une guerre de la vitesse. C'est même plus d'une certaine façon moi contre toi, c'est moi contre le temps. Pour aller plus vite, ce sont aussi des guerres de la cognition. C'est aussi la guerre des cerveaux. Donc c'est ça qui est en train de se jouer, la suprématie militaire. Or, on ne peut pas envisager de suprématie militaire sans technologie de l'hypervitesse. C'est le nom de baptême que je donne à ces technologies-là. Technologie de l'hypervitesse. Un dernier exemple pour illustrer et terminer mon propos, Israël a développé, elle, le cyber et la diplomatie du cyber autour de ça. Et puis enfin, nous autres, les Européens, qui n'arrivons toujours pas à nous décider sur ce qui sera notre proposition de valeur et notre force. Et donc, on est encore un tout petit peu, pour ne pas dire beaucoup, indécis. Et c'est pour ça que je parlais de politique techno-industrielle. Et ce qui est extraordinaire dans l'époque qui est en train de se dessiner, ce sont ces enchevêtrements, ces interdépendances entre économie, guerre, puissance. Et tout ça, idéologie, et tout ça est enchevêtré.
C'est ça, j'allais dire idéologie, parce qu'en réalité, il y a aussi les réseaux sociaux, et quand on parle de technologie, et moi, quand je pense réseaux sociaux, je pense manipulation. Hein,
direct
Oui. De manière assez évidente, manipulation. Et on le voit bien, enfin, il n'y a qu'à regarder la montée d'extrême droite un peu partout. Oui. Hein. Je veux dire, la manipulation, elle est très évidente. Et les outils technologiques sont des outils de manipulation. Enfin, les réseaux sociaux sont des outils de manipulation à grande échelle.
Ce sont des espaces même d'influence. Exactement. Absolument.
qu'est-ce que devrait faire l'Europe, ou comment, enfin, quelle position pourrait avoir l'Europe? Parce qu'en fait, ce qui est assez particulier, tu faisais notion de l'IA, on a des chercheurs exceptionnels en France.
Oui.
Les meilleures têtes, entre guillemets, ou les, oui, les plus grandes têtes, une partie des plus grandes têtes, on va dire, sur l'IA sont français. Donc, patron de Meta, etc., etc., patron de l'IA de Meta, entre autres. Donc, on a les écoles, on a des compétences. Qu'est-ce qui nous manque? Parce qu'on a, on a la DSA, etc. Tu peux peut-être expliquer ce que c'est que la DSA, oui, mais on a des directives. D'ailleurs, ils ont célébré ils ont célébré la semaine dernière que maintenant, grâce à la DSA en Europe, les réseaux sociaux sont responsables des contenus qui sont publiés.
Tu parles.
Et, hein?
Tu parles.
Non, en tout cas, ils étaient contents. Oui. Ils ont publié la semaine dernière une vidéo qui était assez chouette, d'ailleurs, un reel assez cool, pour dire que voilà, maintenant en Europe, les plateformes sont responsables et qu'on peut les poursuivre en justice, etc. etc. Bref, il y a une réglementation qui existe. En Europe, on est les champions de la réglementation. Ça serait quoi la position de l'Europe pour toi? Qu'est-ce qu'elle devrait être, puisque ce n'est pas le cas? C'est quoi les voies pour nous?
Alors, c'est une question fondamentale, c'est une question fleuve. C'est même une question programmatique pour des hommes politiques qui s'emparent à peu près tous très mal de cette question-là. Et pourtant, ils ne sont pas ignorants. Hein. C'est ça qui est extraordinaire. Il faut vraiment arrêter avec le côté « les politiques, ils pompent rien ».
Moi, je pense qu'ils ne pompent pas grand-chose. En fait, moi, je crois que...
Pour leur avoir parlé, non, ils pompent, mais ils ont les mains liées, ils sont sur du très court terme, ils font du « management ». Or, on est dans un moment de l'histoire, on a besoin d'hommes d'État.
On a besoin de leadership.
D'hommes d'État. Plus. Alors, Charles de Gaulle, on en pense qu'on veut. Moi, je ne suis pas une grande spécialiste de Gaulle. Mais on est dans ces moments de l'histoire qui sont des moments charnières. C'est des tournants. Et en fonction de la manœuvre que tu vas faire, tu vas entrer dans le mur ou tu vas sauver ta peau.
Marine Le Pen, c'est ça. Hein.
Mais Marine Le Pen, on est en train de lui ouvrir un boulevard extraordinaire.
Même pour ça, parce qu'elle elle est dans cette posture. Elle n'est pas du tout là, mais elle est dans cette posture.
Ouais. Et il nous manque ça. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on se sorte de cette histoire de management... de public management, si tu veux, pour entrer dans la vision. Et quand je dis la vision, c'est peut-être un mot galvaudé, mais c'est de se dire, pour une question, c'est répondre à cette question très simple, d'ailleurs que donc je soumets à tout le monde et à tous ceux qui nous écoutent. On est qui dans 30 ans? La France, c'est quoi dans 50 ans? C'est quoi? C'est qui? Ton projet, c'est quoi? Hein? On n'a pas le début d'une réponse. Et c'est lié à la question technologique, pas que. Il y a, encore une fois, je reviens à mes questions système. Il y a le climat et la tech. Et il se trouve qu'en plus, on est dans...
Et la politique, plein de trucs.
Mais... Et ce qui est incroyable, c'est qu'en plus, on est dans une schizophrénie du système où on n'arrive pas exactement de façon convaincante à faire converger les deux. Alors la climate tech, d'accord. Le solutionnisme technologique, d'accord. Tu vas réduire ton empreinte carbone à droite, à gauche, à greenwasher. OK, fine, mais... La vérité, c'est qu'il nous manque réellement une vraie compréhension, une vraie attaque, encore une fois, politique du sujet. Et là, on fait de la bidouille, pardon, mais on est en train de bidouiller à la marge. Maintenant, pour répondre de façon beaucoup plus directe à ta question, suite à ce liminaire, ce propos liminaire, qui pourrait prendre la forme d'un coup de gueule. Mais...
C'est un coup de gueule, c'est un coup de gueule. On peut se mettre d'accord.
Mais, non, parce que c'est assez effarant. Tu
non, mais moi, ce que je trouve très étrange, c'est qu'on a les bonnes écoles, on a les bonnes personnes, ouais, on a les bons chercheurs.
C'est pas coordonné.
Et,
on revient à la question de la vision.
Et pour le coup, l'Europe, elle est pas nulle part, je peux pas dire ça, mais elle est pas très loin. En tout cas, si tu compares avec la Russie, avec la Chine et les États-Unis, je sais pas, on va parler de l'Inde après, parce que je trouve que géopolitiquement, l'Inde et l'Afrique, comme c'est là où sont les jeunes, la Chine est en train de vieillir très, très violemment, enfin, comme l'Europe et les États-Unis. Je pense que les deux prochains puits, ça va être l'Inde et l'Afrique. Mais là, concentrons-nous sur l'Europe.
Oui.
C'est quoi la posture qu'on pourrait avoir en dehors de la réglementation,
voilà,
en général?
La posture qu'on a actuellement, c'est une posture, moi, que j'appelle normative défense. C'est-à-dire que puisqu'on n'a pas de géants technologiques, puisqu'on n'a pas d'acteurs qui font la différence, ça ne veut pas dire qu'on n'a rien. Ça veut juste dire qu'on n'a pas des solutions ou des acteurs qui sont à l'état de l'art. Mais l'état de l'art est tellement haut et tellement préempté par les acteurs américains
ou chinois.
Et ça va
tellement vite.
Et ça va tellement vite que c'est vrai qu'on a des petits backups. On a du backup. Mistral, OVH, backup. Ce qu'on s'est dit d'un point de vue politique, la réglementation vue du point de vue politique, puisque tout est politique, c'est de se dire, ok, puisqu'on n'a pas ça au sein de nos frontières, parce qu'on s'est juste pris 40 ans de retard dans la figure, on va dire aux acteurs extra-communautaires qu'au sein de nos frontières, ils vont respecter nos règles. Donc, depuis, disons, 2019, et en réalité depuis l'arrivée de Thierry Breton, qui a vraiment fait bouger les lignes de ce point de vue-là, et je le lui reconnais bien volontiers. Thierry Breton, en arrivant, a compris que c'était fini la naïveté, c'était terminé cette vision de l'Europe comme énorme marché de consommateurs, et que maintenant on était entré dans l'ère du rapport de force, ce que j'évoquais tout à l'heure, et à commencer par nos alliés, les Américains. Donc, le signal politique de ces paquets réglementaires DSA, Digital Service Act, sur la régulation, la réglementation, la modération, disons, des réseaux sociaux et des plateformes. Bon, de le DMA, le Digital Market Act, sur les questions d'abus de position dominante et des pratiques, disons, anticoncurrentielles de ces mêmes plateformes. 3, en ce moment, on parle beaucoup, il y a eu le Data Act, maintenant on parle beaucoup du IA Act. Bon, tout ça, c'est de dire quoi ? Au sein de nos frontières, nous avons, nous, Europe, des valeurs basé sur des libertés fondamentales. Et donc, au sein de nos frontières, vous autres acteurs extra-communautaires, vous avez l'usage, mais vous allez respecter nos règles. Donc, du point de vue politique, moi, je trouve ça... ça aurait été difficile de faire autrement. Ça aurait été même grave de ne pas le faire. Maintenant, il y a la partie proactive. Ça c'est sur la partie défensive, ok. Et on peut d'ailleurs ergoter, discuter.
Oui, parce que ça a quand même des énormes impacts sur la démocratie. Hein. Enfin,
évidemment.
Mais bon.
Donc ça, c'est premier truc. Premier paquet. Et tous les débats sur innovation, réglementation, blablabla, j'ai presque envie de dire, pardon, on en a soupé pendant des mois, c'est presque secondaire en réalité. Ou alors, tout dépend de où est-ce qu'on met le curseur. Moi, je viens des sciences politiques. Alors, je suis obligée de mettre mon curseur sur notre modèle politique, sur la démocratie, sur les libertés fondamentales. Le data scientist va te mettre ça sur « Ouais, je suis pas libre de mettre toutes les datas que je veux dans mon algorithme. » Tu choisis ton combat. Mon combat, moi, je l'ai choisi. Bon. Maintenant, sur la question davantage proactive, offensive, il s'agit d'avoir une politique techno-industrielle. Je dis bien techno-industrielle. Et là, on mobilise de l'argent. Ce n'est pas vrai qu'on n'en mobilise pas. On n'est pas à la rue. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'on fasse mieux, c'est-à-dire un meilleur fléchage. Or, on ne flèche pas assez. C'est le bazar. En France, le système d'innovation nationale français est, pardon, illisible. Je crois qu'il y a quelque chose comme 500 guichets potentiels quand on est une start-up. C'est impossible. C'est un truc qu'on a hérité du XXe siècle, cette bureaucratie extrêmement lourde, pesante, étouffante. Et donc, c'est illisible. Ça, c'est la première chose. Et quand on en parle en haut lieu... J'en parle en haut lieu. Il se trouve qu'on me dit « Oui, mais c'est de là que vient le foisonnement. » Le foisonnement, c'est bien quand tu es dans la Silicon Valley, que tu t'appelles les États-Unis. En France, ça s'appelle le bordel. Si tu n'as pas une vision politique qui flèche. Mais qui flèche quoi ? C'est toujours revenir à...
Qui flèche vers où, quoi, surtout ?
Vers où, exactement, tu as raison. Tu as raison de me corriger, vers où ? On va vers où ? Et là, on revient à qui on est dans 30-20 ans. On a un commissariat au plan, qu'est-ce qu'il fait ? C'est juste le lieu politique de se projeter et d'avoir une vision stratégique. On n'en a pas. Et donc, on saupoudre. Alors, un coup, c'est les cyberattaques. Bam, on va te mettre du cyber partout. Maintenant, l'effet de mode, c'est l'IA. Bam, il faut mettre de l'IA en buzzword partout. Non, il faut avoir une colonne vertébrale et se dire, OK, nous sommes un petit pays avec des petits moyens. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans cette poche qu'on a à disposition. Mais
est-ce que tu peux envisager la France sans l'Europe, d'ailleurs ? Enfin, je sais,
non,
ça n'a aucun sens.
Je pense qu'il faut l'envisager sur les deux échelles. Ce n'est pas tout Europe et ce n'est pas juste moi dans mon coin, souverainisme étouffant et complètement archaïque, puisqu'on parlait des interdépendances. Ça va se jouer à trois échelles. Globale, parce que les géants technologiques aujourd'hui sont américains et chinois. Communautaire, parce que l'Europe, on en a besoin pour un jour peut-être arriver à ces effets d'échelle. Et parce qu'on est plus fort quand on négocie à 27 que quand on est la France tout seul, qui aujourd'hui a une voie diplomatique dont on peut penser ce qu'on veut, mais qui porte de moins en moins sur un certain nombre de sujets, en tout cas sur les questions, disons, technologiques. Et puis après, tu as l'échelle nationale. Et j'ai même envie de te dire qu'on peut même avoir des actions à l'échelle territoriale. Aujourd'hui, j'ai en tête un projet, par exemple, de Smart City, de La Rochelle, dont je me souviens très bien, et qui disait « Moi, je veux avoir un territoire zéro carbone, Donc, on fait converger la vision, la question climatique et la question technologique. Je veux zéro GAFAM, zéro acteur américain pour mes questions de souveraineté. Et donc, elle a travaillé une feuille de route avec son écosystème d'innovation locale, avec des startups, avec l'université de La Rochelle, etc. Et donc, on peut aussi imaginer ça. C'est pas impossible. Et il ne faut pas que ça reste de l'ordre de l'anecdote que je vous raconte là, ou que je te raconte là, à un micro. Il faut que ça essaime et qu'il y ait une prise de conscience à peu près tous les niveaux d'échelle d'action. Mais il est vrai que ce qui est en train de se jouer, c'est quelque chose de l'ordre du gigantisme. Tout est géant, géant technologique, les empires géants, etc. Et donc oui, il va falloir que la force européenne s'articule aussi autour de sa proposition de valeur. Dans quelle chaîne de valeur stratégique mondiale on s'insère pour être incontournable et avoir quelque chose à mettre sur la table le jour où tu as besoin d'entrer dans un rapport de force.
Mais toi, dans ton idée, tu te dirais, idéalement, l'Europe, elle devrait aller dans quel sens alors? Parce qu'il y a l'histoire des microconducteurs, mais en fait, il y a différents types de microconducteurs. Il y a les mines, il y a la recherche en IA, il y a l'énergie. Tu vois, on travaille beaucoup sur l'énergie. Comment on appelle ça? Du coup, je m'en souviens plus.
Nucléaire?
Oui, bien sûr, mais l'inverse.
Donc c'est... Hydro, ouais, non?
Non. Énergie. Je m'en souviens plus. Non, bref, peu importe. L'inverse de l'énergie nucléaire, qui est une énergie propre, effectivement. J'ai pas le mot. L'énergie nucléaire, c'est de l'énergie. Donc c'est. Je m'en souviens pas, c'est pas très grave. En tout cas, on fait des choses, mais pour toi, en Europe, on devrait aller où, en fait?
Pour savoir où on va, il faut travailler. Ce qu'on a oublié de faire en Europe, en tout cas en France, moi je vois au niveau français, on s'agite beaucoup, on travaille assez peu. Travailler, hein, je veux dire, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire travailler sur cette question-là? Ça veut dire à un moment donné, prendre son baluchon et aller faire un diagnostic de filière sur tout le territoire et se dire, ok, là c'est point fort, là c'est point faible, là je garde parce qu'on a des assets et des actifs, là j'arrête. Faire des choix, c'est avoir le courage politique des renoncements. Or, il y a de telles pressions, de telles injonctions contradictoires et de paramètres à gérer quand on est politique, qu'en fait, il vaut mieux laisser le problème se résoudre par lui-même avec le temps, peut-être un jour, que de trancher. Il manque ce courage-là de trancher. Pourquoi Israël a réussi à devenir le champion quasi mondial du cyber? Pourquoi la Turquie est arrivée? Pourquoi nous, on n'arrive pas à se dire « la France, c'est ça, notre force, elle est là ». Et le « là », je ne sais pas te le dire parce qu'on n'a pas ce diag. C'est simple. Et Dieu sait que ça a été... dit, mais ça suppose d'aller bosser, de faire des trucs fastidieux, et derrière de trancher. Donc, travail et courage, c'est peut-être deux trucs qui nous manquent, en fait.
Effectivement. Une question simple que les gens vont se poser, et en même temps que je ne t'ai pas posé moi-même. Je vais peut-être donner mon avis. Je ne sais pas si je te donne mon avis dans la question. Ou si je te...
Oui, bah vas-y, en plus ça va mieux.
Mais qu'est-ce que tu penses?
Oui.
De toute cette démagogie autour de l'IA va supprimer l'humanité. moi, de mon point de vue, c'est de la communication pour les bots d'IA. Je vois pas. Moi, je pense que les réseaux sociaux propulsés par l'IA peuvent effectivement détruire l'humanité, j'en sais rien, mais en tout cas maximiser la chute de la démocratie. Ça, j'en suis assez convaincu, et donc c'est possible que ça nous amène à nous autodétruire nous-mêmes. Mais je trouve ça très étrange, tout ce discours autour de... et même Harari tient ce discours de l'IA va détruire l'humanité. J'étais très surpris de l'entendre dire ça. Et j'avoue que j'ai du mal à comprendre pourquoi... Enfin, c'est quoi la théorie derrière l'IA va détruire l'humanité? J'ai même du mal à saisir le principe, en fait. Je vois pas des robots qui vont venir détruire des humains. Enfin, ou alors c'est moi qui comprends mal, c'est possible aussi, mais non, j'arrive pas à comprendre.
Tu comprends très très bien, et ta question est fondamentale, en fait. Et ça va me permettre de faire ce que j'adore faire et ce que j'essaie de faire depuis le début, c'est-à-dire déconstruire les récits et les narratifs qui viennent justement de certains technologues, idéologues en réalité, de la Silicon Valley. Il se trouve que dans la Silicon Valley, puisque c'est là où se conçoit, où se conçoivent ces technologies-là.
Une partie en tout cas.
Sam Altman, OpenAI, son ex-mentor, Elon, ou parrain ou copain, Elon Musk, avec son groc, mais on pourrait en rigoler, mais en fait, il ne faut pas rigoler de ce que Elon Musk a en tête, j'y reviendrai peut-être. Larry Page dans un autre style, Peter Thiel, enfin, toute cette aéropage, cet écosystème de super techno-idéologues. Et, qui, et pourquoi je dis techno-idéologue et pas simplement des spécialistes de la tech ou des géants technologiques? Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment des idéologies fortes. Et il se trouve que parmi les courants idéologiques, ce que moi j'appelle le patchwork d'idéologie de la Silicon Valley, tu as, si tu veux, un courant qui s'appelle le long-termisme et qui, dont par exemple, est... très cousin un Elon Musk, par exemple, qui t'explique que il y a une possibilité très forte, très rapide même, que l'on arrive un jour à ce qu'ils appellent, mais aujourd'hui c'est de l'ordre du fantasme, à ce qu'on appelle des super-intelligences. On ne parle même plus d'IA, hein, on parle de super-intelligences. Donc ce sont ces intelligences qui surpasseraient l'homme d'un point de vue de la cognition, des capacités cognitives, et qui... serait même potentiellement donc doté d'une certaine conscience. C'est quand même l'apanage ou le monopole, disons, en tout cas, la caractéristique première de l'homme, la conscience, c'est-à-dire ce retour réflexif sur soi, son, notre rapport au monde, aux autres, etc. Bon, ce qu'aujourd'hui la machine, évidemment, ou les algorithmes ne savent pas faire by design et donc par nature. Donc, sur la question du long-termisme et de ce courant-là, c'est de dire, à un moment donné, parmi tous les risques existants, le climat, le déclin démographique, bon, tout ça, la question technologique et ses super-intelligences est un risque pour l'humanité. Or, l'ambition, le projet, plus exactement, du long-termisme, c'est d'assurer la pérennité de l'espèce humaine dans les siècles millénaires à venir, mais j'ajouterais, coûte que coûte aujourd'hui, c'est-à-dire indépendamment de toute considération, même éthique aujourd'hui, pourvu que nous arrivions à la survie de l'espèce, ce qui explique, en sous-champ, le néonatalisme de la Silicon Valley. Ils font Elon Musk en a 10, et puis t'as un courant comme ça qui apparaît, vraiment, hein, de super bourgeois, des CSP+, qui font beaucoup de gamins, 7, 8, etc., parce qu'il faut repeupler. Ça, c'est la première chose. Ce qui explique aussi toutes les batailles autour de est-ce qu'on continue les développements, est-ce qu'on les arrête, oui, non. Tu te rappelles ce fameux moratoire il y a quelques temps, en disant « Oh là là, on va s'arrêter 6 mois dans la recherche », ce qui était complètement idiot, doublé d'une forme d'hypocrisie. Mais enfin bon, parce que c'est un peu les pompiers pyromanes, quoi. C'est-à-dire qu'ils développent des IA, ils continuent en disant « Oui, mais attention, le risque X, parce que ce risque-là, de l'extinction de l'humanité par des super-intelligences qui viendraient les détruire tout d'un coup », on appelle ça le X-risk, le risque X. Bon, il faut aussi avoir en tête que les géants technologiques, ou en partie parmi ceux-là, certains d'entre eux, ont des imaginaires, des projections du monde qui ont été bercées par la science-fiction des années 50-60. Et donc, c'est assez marrant de voir que tout leur narratif et leur récit participent aussi de cette, disons, incarnation de ce qu'ils ont lu quand ils étaient ados. Et puis enfin, au-delà des questions idéologiques, ou même d'une forme d'accélérationnisme, Sam Altman, par exemple, qui est réputé accélérationniste, alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lui, au contraire, il pense qu'il faut accélérer ce développement-là et aller très très vite pour faire émerger un système post-capitaliste, qu'il a d'ailleurs, qui fait écho à des choses parfaitement connues, le revenu universel, la création de la super-valeur par quelques-uns de l'élite et des IA, des super-IA, pendant que nous autres, le peuple, on nous donnerait un espèce de revenu universel qui aurait été taxé sur les machines, les robots et les algorithmes pour nous permettre de vivre. Enfin, c'est vraiment le Moyen-Âge, quoi. Mais vendu, si tu veux, packagé sous un récit de super progrès. Mais il faut absolument qu'on ait la conscience de ces récits. Et je terminerai là-dessus, ma longue réponse, c'est que plus tu fais peur aux gens, plus tu les plonges dans un effet de sidération, plus donc ils sont incapables de quoi ? De penser et de réfléchir. Un. Et deux, plus tu fais parler de toi, en bien, en mal, peu importe, plus tu crées une vague de hype, plus tu fais quoi ? Plus en fait, tu lèves des fonds. OpenAI a un besoin sur les prochaines années de 1000 milliards à lever. Bon, bah donc il a intérêt à maintenir son buzz d'une certaine façon. Sinon, il va lever que dalle à la fin ou pas du tout à la hauteur de l'ambition. Donc il y a des vraies batailles idéologiques entre eux parce que les types, parfois, y croient et ça procède parfois même de comportements ou de ressorts sectaires, parfois. Pas toujours, mais parfois. Il y a les batailles entre Musk, Altman, qui étaient copains, qui ne le sont plus, qui se taillent des trucs, avec toute cette aussi bataille culturelle du woke, anti-woke capital de la Silicon Valley. Musk dénonçant ChatGPT et Altman d'être plutôt progressiste gauche au woke et promettant une contre-IA anti-woke, par exemple. Donc, il y a aussi cette grille de lecture-là. Dans un pays, les États-Unis, qui est nervuré de cette bataille culturelle, de cette implosion intérieure de valeurs. Et puis le buzz, la hype, d'une part, tu sidères les gens, donc tu annules leur capacité de penser, de déconstruire le récit, et puis pour lever de l'argent.
Qu'est-ce que tu penses néanmoins de l'impact de l'IA générative sur les emplois? Parce que pour le coup, la réalité, c'est quand même que et moi je le vois, j'utilise de l'IA tous les jours quasiment, je pense, maintenant, pas que ChatGPT, mais aussi ChatGPT pour ce podcast, j'utilise beaucoup d'IA, etc. Comment tu penses que ça va impacter les métiers? En particulier, on s'y intéresse particulièrement parce que je crois que ça a maintenant atteint l'école blanche. Enfin, les cadres, les professions intellectuelles, et alors qu'en fait, en tout cas, l'Europe, dans sa stratégie, finalement, sur les 40-50 dernières années, on s'était dit, finalement, la Chine, l'Inde, le Pakistan seront les usines de l'Europe, et puis nous, on va se concentrer sur les métiers intellectuels qui, eux-mêmes, maintenant, commencent à être remplacés par l'IA. Donc, du coup, on est un peu comme des cons parce qu'en fait, nos métiers, ils sont un peu. Donc, il y a eu un problème de choix stratégique industriel à un moment donné.
On y revient toujours.
Et puis, maintenant, il y a quand même un impact réel sur l'emploi de l'IA.
Il y a un impact réel, ça c'est clair, en qualité et en quantité. Et c'est peut-être la première distinction qu'il faut mettre. C'est-à-dire que... Et tu as à peu près autant d'études qui vont te dire que c'est la fin de tout et d'études qui vont te dire c'est à peu près 5%. La dernière étude un peu sérieuse que moi j'ai en tête, c'est celle de cet été, août 2023, de l'Organisation internationale du travail qui estimait la destruction nette de jobs suite, ou à cause, on va dire, des IA génératives, de l'ordre de 5%, mais qu'en réalité, le vrai challenge, le vrai défi, c'était la transformation des métiers et leur montée en valeur. Est-ce que j'ai une boule de cristal? Non. En revanche, j'ai un rétroviseur. Non, j'ai un rétroviseur.
C'est pas mal.
Et mon rétro, qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qu'il me fait voir? Hop, eh bien, remontons un peu le temps. Remontons, allez, au hasard, qui n'est pas du tout un hasard, à 2016-2017. Tu sais, c'était ce dernier moment où on a eu cette hystérie sur l'IA. Parce que c'est tous les 10 ans qu'on a cette ressuscité.
Moi, je me souviens d'une vidéo de 2014 sur l'IA. En particulier, qui s'appelait « Human Need Not Apply ».
Ah oui, t'as 2014. Moi, j'ai la note de 2016. Qui nous expliquait, ça, tu te rappelles, 50% des jobs à 2050,
je me souviens.
Bon. Tu te rappelles? Et après, on avait dit oulala.
On a eu des longues discussions sur la suppression des jobs par l'IA.
Tu te rappelles? Parce que qu'est-ce qui s'était passé en 2016-2017? T'avais eu quoi? T'avais eu, je crois que c'était AlphaGo.
D'accord.
Et la discussion d'avant, c'est 1997, Kasparov qui perdait. Donc en fait, globalement, si je prends mon rétro, et d'ailleurs, ça m'étonne beaucoup que les gens ne le fassent pas. Et pourtant, moi, j'ai répété beaucoup ça. Tu prends le rétro, à peu près tous les 10 ans, t'as une nouvelle hype, t'as une nouvelle vague de hystérie collective et tu vas voir que dans quelques temps, ça va redescendre. Parce qu'on commence à voir les rétextes, on commence à voir les retours d'expérience maintenant de ChatGPT, Bard, etc. C'est des super outils, mais qui sont à disposition. Oui, tu vas avoir des métiers plus impactés que d'autres. Les comptables, les traducteurs, mais même les artistes. Je discutais la dernière fois avec un designer vraiment fashion, mode, de Louis Vuitton. Et qui m'expliquait qu'en fait, c'était un super outil, mais sur lequel il devait, lui, travailler. Apporter sa touche, apporter son originalité.
Bien sûr.
C'est un peu, tu sais, si on continue à remonter le temps et à regarder dans notre rétro, la photo. Tu sais, quand on a inventé la photographie, bon, À l'époque, qu'est-ce que c'est venu soi-disant disrupter la peinture?
Oui, bien sûr.
Et qu'est-ce qu'on s'était dit? Oh quoi, c'est pas de l'art, c'est... Bon, et à la fin des fins, aujourd'hui, la photo est un art en tant que tel. D'ailleurs, disrupté lui-même à son tour par nos smartphones, parce qu'on est tous des super photographes maintenant, avec tous énormément de talent. Hein, food porn, ça, enfin, moi-même, je suis la première à passer mon temps à prendre des photos partout de n'importe quoi, d'espèces de boulimie picturale, on va dire. Ce que j'essaie de dire par mon rétroviseur et par ces exemples, c'est qu'il y a à la fois, et c'est ça qui est stimulant et passionnant dans notre époque, il y a à la fois une permanence de nos questionnements. L'homme, le remplacement de l'homme par la machine, essayer de remplacer la pénibilité du travail, de certaines tâches par la machine. Et là, peut-être que le premier des exemples, en fait, c'est le cheval qu'on a domestiqué pour aller plus vite, pour avoir du travail de la terre moins pénible. Vous voyez, tu vois. Donc, il y a une permanence de la volonté de l'homme, ou en tout cas de l'homme occidental, à dompter son environnement et sa nature, et ça n'a rien à voir avec l'IA. C'est nous, sommes nous, comme ça, dans cette quête permanente. Et en même temps, on a des outils qui sont inédits et qui sont, pour le coup, peut-être civilisationnels. Attention, quand je dis civilisationnel, je ne veux pas dire par là, c'est pas un gros mot. La civilisation, ce n'est rien d'autre que l'ordonnancement qu'on donne au rapport aux autres, nos institutions, nos règles. La façon dont on envisage notre rapport au monde. C'est pas un gros mot, hein. Je suis pas en train de dire évolution, c'est un peu des deux, mon capitaine. Donc sur la question plus prosaïque du travail, si on prend le rétro, qu'est-ce qui s'est passé? Dans les années 70, je remonte pas à la révolution industrielle, dans les années 70-80 du 20e siècle, on a eu une grosse vague d'automatisation, et notamment au Japon, en Allemagne, etc. Ça ne s'est absolument pas du tout traduit par du chômage de masse, c'est tout le contraire. Mais ça suppose quoi? Et j'y reviens toujours avec une espèce de névrose obsessionnelle. Ça suppose la vision, ça suppose des politiques publiques qui accompagnent ça, qui ne laissent pas faire, cette espèce de laisser-faire un peu utopique ou complètement idéalisé, ne marche pas. Il faut que tu saches où tu vas, avec qui et comment. Et pour répondre à ton excellente remarque sur « on a cru que ça allait être les pays pauvres qui allaient être nos usines et notre arrière-cour pendant que nous, on fait les super créas et les cols blancs », non seulement on a un retour de manivelle, mais on commence à le comprendre puisqu'on est en plein quoi? En pleine réindustrialisation.
Ouais, complètement. Enfin, en pleine.
Volonté de.
Volonté
avec
de,
ouais. Les rubans rouges, on a coupé quelques rubans là, les gigafactories.
Bon, enfin, on est quand même loin, mais...
On en est loin, parce que ce qui nous manque surtout, c'est pas tellement nos cerveaux, c'est pas tellement des talents, encore que si, il va y avoir un shortage.
On a plus de savoir-faire. Hein.
Exactement. C'est le transfert de techno. Et là où tu as raison, c'est que sur les IA, vraiment, les vrais super bons chercheurs en IA qui seront capables d'attraper les prochaines révolutions, je pense que franchement, ils doivent être 3000 dans le monde. Et pas tous français. Hein. Les Chinois sont aujourd'hui proposent des capacités assez incroyables. Donc, et la plupart des autres sortent en réalité de Stanford. Hein. Faut pas se mentir.
Oui, non, mais oui. Et je te parlais tout à l'heure, parce qu'on a beaucoup parlé, bien sûr, Europe, Chine et États-Unis. Je t'ai fait mention de l'Inde et de l'Afrique. Parce que oui. Pour moi, c'est des réservoirs de jeunesse. Parce qu'en fait, le monde est en train de vieillir. En tout cas, il n'a jamais été aussi vieux. Et tu le vois particulièrement, effectivement, en Chine, en Europe, aux États-Unis. Et tu as deux continents, ce n'est pas des continents, mais deux grosses masses, on va dire, que sont l'Afrique, qui est un continent, lui, et l'Inde, oui. Qui est un pays, où il y a plus de jeunes. Et donc, ça va être forcément il va y avoir une revanche. Enfin, à un moment, c'est juste de la logique. À un moment donné, il va y avoir une revanche, je veux dire, de l'Inde et du continent africain, parce que par définition, c'est eux qui vont commencer à servir les vieux que nous, on va devenir. Par essence. Comment tu vois, eux, leur posture en termes technologiques de ces deux grosses masses, finalement?
Question vertigineuse. Et avec deux réponses, parce que ce sont deux cas très, très différents.
Très différents.
L'Inde, donc on l'a compris, puisque je suis une mémé qui radote, vision politique, stratégie techno-industrielle. Ce que nous n'avons pas exactement, qu'on n'a pas bien affiné encore en Europe, et que, en revanche, l'Inde a de façon extrêmement claire. Ils ne sont plus simplement l'usine d'Apple. Quoique, maintenant, avec cette rivalité stratégique entre États-Unis et Chine, à un moment donné, on a eu ces concepts de découplage des risquages. C'est-à-dire, bah, sur les filières ultra-stratégiques, avec toute d'ailleurs cette fièvre autour des semi-conducteurs de TSMC à Taïwan, eh bien, et qu'il faudrait que les industries, et les industriels plus exactement, occidentaux, c'est-à-dire européens et américains, se disons, des risques et ou des couples, le jour où on aura fixé le concept, de la Chine. C'est-à-dire qu'on rapatrie sur des chaînes de production beaucoup plus locales. Parce que la Chine présentant donc un risque systémique pour le, disons, le pôle occidental. L'Inde en a donc profité, effet d'aubaine extraordinaire. Donc dès l'instant où il y a eu, à l'été 2022, la fameuse visite de Nancy Pelosi à Taïwan qui a mis le feu aux poudres. Et à partir de là, on a eu aussi cette salve de restrictions à l'exportation des actifs stratégiques des États-Unis contre, disons, la Chine pour bloquer son développement, notamment sur les chips de dernière génération, toujours avec cette hantise des IA militaires. Eh bien, à partir de été 2022, les restrictions étaient antérieures, mais elles ont été vachement musclées à partir de ce moment-là et continuent. Eh bien, l'Inde en a tiré profit en disant « Ok, on va récupérer tout ce que les Américains vont dérisquer ou découpler de la Chine. » Et notamment, donc, Apple a rapatrié vers le Vietnam et vers l'Inde, je crois. Tu as eu beaucoup, beaucoup de tournées. Altman est allé en Inde en personne, comme vraiment dans la plus pure tradition maintenant de ce qu'on va appeler la tech-plomatie ou la tech-diplomatie.
Ils ont aussi des excellents ingénieurs. Hein.
Ils ont des excellents ingénieurs. Et donc, ils sont en train de remonter la chaîne de valeur à une vitesse assez d'ailleurs rapide, avec une vraie vision de se dire « Ok, on va jouer de cette tension sino-américaine pour s'immiscer dans le jeu et trouver notre place et jouer notre partition. » Dans l'espace aussi, ils sont de plus en plus présents avec des velléités. L'Inde joue sa partition et de façon assez liquide, assez fluide. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois dans ce groupe des BRICS+, mais ils font des relations internationales et de la géopolitique pure, c'est-à-dire de la réelle politique. Ils prennent des alliances, ils entrent dans les coopérations, ils font des deals en fonction de leur intérêt stratégique sur tel ou tel sujet spécifiquement. Ils n'ont pas, je crois, je peux me tromper, et on pourra toujours en discuter, et on pourra parfaitement me contredire là-dessus, mais je crois qu'ils jouent plusieurs game d'une certaine façon à la fois. Et donc c'est une forme de diplomatie très liquide. C'est pas the West versus the rest, ou moi contre le monde, ou voilà mes copains, mes alliés. Pas du tout. En fonction de mon intérêt, je vais avec toi. Et puis je peux demain aller avec mon ennemi ou ton pote ou je ne sais quoi. Peu importe. C'est vraiment, ils font de la géopolitique vraiment telle qu'on l'entend, c'est-à-dire en fonction des intérêts, non pas en fonction des valeurs. Ce que l'Europe a encore du mal à entendre et comprendre. On fait des relations internationales en fonction de nos intérêts vitaux, directs, puis après on discute les valeurs et c'est des visions politiques différentes. Sur l'Afrique, donc l'Inde va compter, c'est ça que je veux dire, et va compter de plus en plus. Sur l'Afrique, c'est un peu différent. L'Afrique est un continent, oui, jeune, oui, peuplé, mais qui est encore un enjeu, qui n'est pas encore tout à fait acteur. Il est un enjeu pour la Chine, les routes de la soie, déployer les infrastructures chinoises, gagner des marchés, mais surtout avoir la main mise sur les ressources, les matières premières, sur la main d'œuvre, sur aussi une captation de données. Parce que tout d'un coup, à capter toutes ces données massivement du continent africain permet aussi d'entraîner les algorithmes avec une hétérogénéité de data. Il faut aussi l'avoir en tête. Il est un enjeu de plus en plus pour les États-Unis. Les fameuses tournées de d'Anthony Blinken depuis ces deux dernières années, mais avec une difficulté à l'allumage, je dois dire. Tu as des pays qui développent aujourd'hui une vraie vision. Je pense au Rwanda. Le Kenya, qui est aujourd'hui perçu comme étant l'arrière-cour pour tout un tas de start-up et de grosses boîtes technologiques pour l'entraînement, la modération, etc. Attention, dans des conditions sociales, financières, délétères. Mais c'est là que ça se passe, donc je le souligne. Tu as des pays comme le Maroc, si on monte un peu l'Afrique du Nord, qui a aussi une volonté, encore embryonnaire, mais qui essaie de s'articuler comme étant une puissance régionale, comme point d'entrée vers l'Afrique. Et puis, l'Europe. L'Europe qui n'a pas bien vu le risque, qui a perdu et qui est en train de perdre toute influence. On le voit aujourd'hui avec la France, qui se fait chasser littéralement de ce qui a été la France-Afrique ou de l'Afrique francophone, qui a perdu et qui est en train de drastiquement en fait perdre son influence, mais aussi alimenté par une histoire coloniale tout sauf simple et alimenté par les ingérences étrangères. Et donc c'est aussi là que se joue la bataille géopolitique ou même dans le cyberespace en Afrique sur les questions d'influence et d'ingérence russe par exemple ou même chinoise. L'Afrique aujourd'hui est un enjeu. Charge aussi d'une certaine façon aux pays africains dans leur hétérogénéité à se prendre en charge et à construire leur stratégie pour ne pas être simplement un enjeu, mais pour être acteur de leur destin. Il ne faut pas se dire, il ne faut pas qu'ils se vivent comme ça. Et c'est assez drôle, et je terminerai là-dessus, c'est parce que je lisais une interview d'une première ministre, je me demande si ce n'était pas la première ministre de Tanzanie, qui expliquait que c'est vrai que c'est un continent qui n'a pas aujourd'hui beaucoup de moyens donc pour faire des deals ou des PPP, des partenariats publics-privés extraordinaires avec les big tech, mettons, ou avec ces, des grosses boîtes. Mais on est là aussi de courte vue parce que c'est là où se jouent beaucoup de choses. Les questions de sécheresse, les questions de climat, on pourrait les adresser, ces marchés-là, non pas simplement pour faire du fric, mais pour aussi exister, mais pour aussi trouver des solutions à l'autre grande question qui est la question migratoire et climatique. Ils disent, nous, on a des besoins énormes, on aurait besoin de ces IA-là pour prévoir les sécheresses, pour adapter, modeler, modéliser nos besoins. Et pourtant, parce que nous ne sommes pas une priorité absolue parce que peut-être on ne peut pas aligner tout de suite les millions, on n'est pas entendu.
D'ailleurs, tu parlais tout à l'heure de rétroviseur. Est-ce qu'il n'y a pas un angle mort ? Moi, j'ai l'impression, en fait, c'est comme ça que je le vois, mais j'ai l'impression qu'il y a un angle mort sur la technologie parce qu'effectivement, j'ai l'impression qu'enfin, tous ces cerveaux très brillants qui réfléchissent à la technologie, ils ignorent complètement la question climatique, mais en réalité qui est pour le coup une question civilisationnelle, hein, pas oui. Au sens propre.
C'est clair.
En tout cas sur les conditions, je pense pas que l'humanité va disparaître demain, mais en tout cas sur les conditions de la vie sur Terre, je pense qu'il va y avoir des impacts qui vont être très puissants, très forts.
Les vagues migratoires,
très vite. Les vagues migratoires, ça va être le premier évidemment impact. Là, on va pousser l'extrême droite un peu plus en disant ça, mais évidemment ça va être un impact
très
fort.
C'est un puissant fond le truc.
Ouais. Et en fait, je me dis, est-ce qu'on met pas les efforts au mauvais endroit ? Parce que est-ce que le bon endroit serait pas, parce qu'il y a la techno, c'est important, et moi je crois pas du tout à la techno-solutionnisme. Je pense que les technos vont participer, mais en fait elles sont clairement pas la solution, parce qu'encore une fois, le problème, elle est dans le lien, elle est pas dans un truc ou un autre. Est-ce qu'il n'y a pas justement un angle mort énorme de toutes ces boîtes, de tous ces gens qui se concentrent sur la tech et sur l'IA, enfin la tech de manière générale, et qui oublient complètement, ou qui pensent vraiment et qui croient profondément au technosolutionnisme, alors qu'en fait, il suffit d'y penser 3 minutes pour savoir que, évidemment, ce n'est pas la techno qui va résoudre le problème. Moi, ça me semble évident, mais peut-être que je me trompe. Hein.
Là où tu as raison, est-ce que c'est un angle mort ? Certains te diront que non. Dans le sens où on va te dire, mais regarde Apple, regarde le dernier rapport d'activité d'Apple, ils t'expliquent bien qu'ils sont neutres dans leur bilan carbone. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, et ce sujet va commencer à devenir complètement sur-idéologisé et hystérique, comme fut le cloud en France. Donc, je vais parler avec énormément de précautions et de pincettes parce que tu vas voir tous les super idéologues de France et de Navarre qui vont s'exciter. Qu'il y ait des initiatives, c'est très chouette, c'est cool, bravo, voilà, go on, c'est top. En revanche, est-ce que c'est une solution systémique ? Pas pour l'instant. Est-ce qu'on est dans un système qui est schizophrène, où tu as à la fois cet enjeu climatique et en même temps, on continue à développer plein d'IA, à faire plein d'annonces, à faire monter le buzz. Tu la sens, cette schizophrénie du système, on la sent. La question des usages, la question de développer encore plus... Tu écoutes Sam Altman, mais tu as l'impression que le gars, il réfléchit pratiquement que dans un univers mental infini. Ce n'est pas possible. Nous sommes dans un monde fini. Et d'ailleurs, lui-même a fini par en prendre conscience en disant « Ouh là là, je vais avoir un problème de croissance et de growth parce que, en fait, moi, mon data center, je ne vais pas pouvoir aller en foutre tout le temps partout en réalité. Je vais avoir même un problème physique, matériel, de mètres carrés. » Donc, il y a cette prise de conscience-là. Ce que je veux dire, c'est que la question technologique, la question de l'IA, c'est tout sauf virtuel ou immatériel. C'est des data centers, c'est des câbles sous-marins, c'est des satellites, c'est de la matière.
J'ai reçu Guillaume Pitron, d'ailleurs, sur ce podcast, qui en parle.
Bien sûr, c'est de la matière. Ou même Pierre Veltz, économiste, qui t'explique qu'en fait, c'est de l'hyper-industrie. C'est une industrie. Donc ça, c'est la première chose. Et qui dit industrie, dit chaîne de valeur, dit extraction massive, tu vois. Donc, les conditions de travail, les conditions d'extraction, le shortage, le fait que tout d'un coup, t'es plus rien, on l'a vu avec les semi-conducteurs, on l'a vu pendant la crise Covid, tout d'un coup, t'as plus rien, tu fais quoi si t'as plus ? En fait, ton économie collapse. Super, on est bien avancé. Donc, il y a tous ces éléments-là à anticiper dans un monde qui est fini et dans un monde qui est conflictuel. Conflictuel. Si tu prends la question des semi-conducteurs, parce qu'il y a eu ces restrictions américaines, tout d'un coup la Chine, qui a été relativement discrète dans sa réaction, a dit « Ok, vous m'embêtez, donc vous ralentissez ou freinez ou me mettez des difficultés à avoir accès à cette techno-là, c'est très simple les gars, moi je vais arrêter de vous vendre quoi ? Le gallium, le germanium et le graphite, parce qu'il se trouve que pour faire tes semi-conducteurs, t'as besoin de germanium, de graphite et de... zut l'autre là.
Donc, le dernier.
Et le dernier. Germanium, gallium et graphite. Donc, tu vois ces interdépendances qu'on militarise et qu'on arsenalise et qu'on brutalise et qu'on conflictualise, tout ça fait que c'est une première difficulté. La deuxième difficulté, c'est la schizophrénie du système. La troisième, c'est qu'il n'y a aujourd'hui aucun homme politique qui a une vision claire et donc globale de ça. Trois, aux États-Unis, ou quatre, point, quatrième point, aux États-Unis, mais de façon symétrique. En Chine, c'est de dire, c'est la climate tech, solutionnisme techno, on va développer. Et c'est aussi le sens de l'IRA, l'Inflation Reduction Act de Biden, qui était de dire, on va relocaliser, on va aller sur du green, on va aller sur les véhicules autonomes, on va aller sur les panneaux solaires. Aujourd'hui, le leader mondial des panneaux solaires, je crois, si je ne me trompe pas, c'est la Chine. Hein. Donc,
oui.
Voilà. Donc, gars, on peut continuer comme ça, la course à l'échalote, et continuer à aller toujours plus loin dans ça. Mais il faut que ça entre dans un cadre global de où est-ce qu'on va collectivement. Or, parce que ces deux pays-là sont aujourd'hui en rivalité, c'est très difficile d'avoir un discours coordonné global. Très difficile. Comment on va évoluer d'un point de vue géopolitique sur ces deux questions transverses à l'avenir ? Je n'en sais fichtrement rien. Tout va dépendre aussi des élections américaines, de qui va être président des États-Unis. Et dans le rapport de la CIA, que moi j'affectionne beaucoup, parce qu'il était vraiment assez génial, le dernier, Le Monde à 2000, je ne sais plus quand, 50, tu avais les quelques scénarios. Bon, aujourd'hui, le scénario qui est en train de se dessiner, mais on verra si c'est ça qui va être un peu l'alpha et l'oméga des prochaines années, c'est ce qu'on va appeler la coopétition, c'est-à-dire deux pays qui, en fait, eux, détiennent beaucoup les clés de ce que sera et la morphologie du XXIe siècle, États-Unis et Chine, qui sont en rivalité, donc qui sont en compétition, clairement, mais en même temps, sur un certain nombre de sujets, qui peut-être pourraient même coopérer. En novembre 2023, donc suite au sommet entre États-Unis et Chine à San Francisco, il y a eu une forme de détente entre les deux et ils se sont dit, tiens, on va discuter sur les grandes guidelines qu'on devrait quand même respecter sur la question de l'IA. Parce que quand je parle d'IA militaire, c'est toute la question des armes autonomes qui pourraient être des armes de destruction massive. Attention, c'est pas du tout les frappes chirurgicales qu'on pourrait fantasmer. Donc, il y a peut-être une possibilité de coopétition, c'est-à-dire, ouais, d'accord, une super rivalité à celui qui va avoir la plus grosse, ok, mais sur ces deux enjeux-là, on va quand même un tout petit peu garder le contact. tu parlais de liens, mais garder une ligne de téléphone ouverte, quoi.
Et est-ce que l'Afrique pourrait pas être le lieu de la prochaine révolution industrielle, parce qu'ils ont cette sobriété ils ont une sobriété dont on va avoir besoin en Occident.
Oui.
Ils ont de la jeunesse, ils ont quand même des poches technologiques.
Oui.
Et je me dis quelque part, peut-être qu'il y a une carte à jouer pour le continent africain.
Oui.
Sur cette nouvelle technologie qui sera beaucoup plus sobre. Tu vois ce que je veux dire
ou... Il y a une carte à jouer à condition que l'Afrique, ça veut rien dire.
C'est oui, il y a 34.
Donc, c'est pays, qui, quel pays, avec quelle vision, avec quelle tradition, avec quelle valeur. Tu as aussi beaucoup de guerres, tu as beaucoup de conflits, tu as beaucoup de pauvreté. Donc, il y a aussi des conditions, si tu veux, structurelles, et non pas conjoncturelles, mais structurelles, qui, aujourd'hui, empêchent l'Afrique de devenir un acteur géopolitique en termes de soft power, c'est-à-dire d'être une parole qui compte en termes de normes. Or, la question technologique et son leadership, c'est qui va, si tu veux, imposer sa norme. Et donc, une norme encapsule quoi ? Des valeurs, une vision du monde, etc. Donc, elle a encore quelques marches à franchir avant d'être un continent où il faudrait que des pays émergent comme étant à l'état de l'art, ayant une proposition de valeur politique. Et c'est pas impossible, hein, c'est pas impossible. Mais il est vrai que les priorités aujourd'hui sont ailleurs, sont sur une forme de stabilité politique versus, tu sais, on voit ce qui est en train de se passer actuellement au Sénégal. Donc le Sénégal aurait pu être ce pays-là, par exemple, ou même la Côte d'Ivoire, ou le Rwanda. Aujourd'hui, on est encore sur des cercles d'action, des terrains de jeu qui sont encore petits ou freinés. Est-ce qu'il y a une potentialité ? Évidemment, mais il faudrait transformer ce potentiel en action. Et probablement que tu as une nouvelle génération. Moi, j'espère beaucoup qu'elle éclorera et qu'elle aura une parole, bien sûr. Mais la prise de conscience commence sur cette... on arrête l'infantilisation, on existe par nous-mêmes. Le fait de chasser la France... dans ces conditions humiliantes pour la France, c'est humiliant du point de vue français, mais si on change le regard et on va du point de vue africain, ça dit quelque chose.
C'est une libération, bien
sortir
sûr.
Sortir du joug. Mais attention, il ne faudrait pas sortir du joug français pour aller sous un autre joug.
Chinois.
Russe, chinois, etc. Ou turc. Donc, sur les questions de drones, par exemple. Donc, c'est toute cette difficulté-là, et on revient toujours à la question de qu'est-ce que c'est que la souveraineté ? C'est-à-dire ton indépendance, d'une certaine façon, avoir le droit de regard sur ton destin quand on est dans un monde à ce point interdépendant et que ces interdépendances sont des armes de guerre.
Tu as beaucoup parlé de techno de guerre. Je ne suis pas sûr que ce soit très clair pour tout le monde, parce qu'il y a effectivement les drones. Il y a l'IA qui peut beaucoup aider, même si certains pays se protègent de l'IA en disant « Oui, mais nous, on a fait ça avec de l'IA. » Et en fait, ils tuent quand même beaucoup, beaucoup de monde, l'air de rien. beaucoup plus que ce que devrait faire l'IA, en tout cas. Techniquement, ou alors c'est que l'IA a été mal programmée, ou alors a été programmée pour autre chose. Comment on peut s'assurer d'avoir du respect pour l'éthique humaine, pour... Parce qu'en fait, là-dedans, les laissés pour compte, c'est quand même les individus, l'air de rien. Souvent. Il y a évidemment les guerres, mais il y a aussi le travail. En fait, l'IA, mais la techno de manière générale, crée une division assez importante dans les sociétés. Tu vois, entre ceux qui sont literate et ceux qui ne le sont pas, en tout cas. Et ça, c'est dans nos pays à nous, bien sûr, mais dans d'autres pays, c'est simplement l'accès, tu vois. Et puis après, il y a aussi, évidemment, tu vois, l'impact des réseaux sociaux, les gens qui comprennent l'impact que ça a chez eux, sur eux, en termes de manipulation. Mais enfin, clairement, ça me semble assez évident que majoritairement, en tout cas en France, les gens ne comprennent pas la manipulation qui s'opère sur les réseaux sociaux. Donc,
tu crois qu'ils ne le comprennent pas encore ?
Je pense qu'ils n'ont pas bien compris, parce qu'en fait, chacun est très fier et pense qu'il n'est pas capable d'être manipulé. En fait,
c'est vrai.
Je pense que chacun individuellement se dit, attends, mais moi, quand même, je sais faire la différence entre de la manipulation et pas de la manipulation. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, on est, comme notre cerveau, il est quand même assez faible dans l'absolu face à des neuroscientifiques qui passent leur journée à essayer de nous manipuler, qui sont payés pour, du coup, en fait, on se fait manipuler, mais puissance 1000, tu vois.
Et surtout, on parlait des IA génératives. Aujourd'hui, tu peux construire du faux, mais nativement. C'est-à-dire que le faux est une forme de vrai. C'est-à-dire, oui, c'est pas ça, simplement ça. De la manip. C'est pas du Photoshop, quoi.
C'est... Et du coup, c'est compliqué. Donc, excuse-moi, je t'ai posé pas mal de questions. La première, c'était préciser les
IA militaires.
La seconde, c'était. C'était quoi?
Polarisation.
Pardon?
Les pays pauvres, les pays riches, oui, les literacies.
Et literacy, pour literacy, exactement. Donc, en fait, il y a pays riches, pays pauvres, pauvres et riches dans les pays riches, etc., etc.
I got it.
Vous avez 5 minutes. Hein.
C'est clair. Attends, tu te rends... Il n'y a pas une question facile. Hein.
Non, bah, je
suis désolé. Tu ne m'as pas posé une question. Tu vas tranquille.
Oui, alors, en fait, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur la technologie?
Non,
comment fonctionne l'IA générative?
Non, mais attends, mais ça va donner un peu de stress, mais très dense. Donc, courage. Ouais, waouh, il n'y a pas un truc où tu dis « Oh, fuck !»« Oh, merde !»
Alors, comment ça fonctionne, les IA génératives? Je ne comprends pas.
Oui. Non, là, tu n'es pas du tout là, mon Dieu.
Désolé.
Même moi, je suis crevée de m'écouter parler. Non, alors, sur les IA militaires, concrètement, Kezako. Plusieurs choses dans les IA militaires. Je l'ai beaucoup évoqué, rivalité États-Unis-Chine se joue sur la question de la vitesse et de la suprématie militaire. Parce que le leadership mondial, c'est celui qui va pouvoir, disons, assurer une forme de sécurité nationale, régionale, mondiale. D'accord ? L'IA, c'est d'abord tous les systèmes que tu as en backup. C'est-à-dire que ce qu'on est en train d'observer depuis quelque temps, c'est tout simplement la dataification du monde, mais aussi donc des champs de bataille et de la guerre et des conflits. Donc quand tu mets beaucoup en données, que tu as énormément de sources de captation de data, les caméras embarquées, les satellites, enfin tous les capteurs possibles et imaginables, les réseaux, le site, enfin tout ça, fait que tu captes beaucoup, beaucoup de données. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de données, ça n'a aucune valeur en soi.
Non.
On est d'accord.
Il faut l'analyser.
Il faut la transformer en information.
Exactement.
Et c'est là où intervient l'IA. Par exemple, les IA génératives, ChatGPT ou même Palantir, interviennent déjà, par exemple, en Ukraine. D'accord ? Et à quoi ça sert, très prosaïquement et très concrètement, c'est que tu vas capter beaucoup de data et que derrière, ta machine, je dis machine pour l'image, hein. C'est pas une machine, c'est un algo et que tu ne vois pas. Hein. Mais c'est vraiment juste pour imager le truc, pour que ce soit un tout petit peu plus, moins conceptuel. Mais,
Merci, c'est compliqué comme ça. Hein.
C'est déjà assez relou comme ça. Donc, gardons la machine comme image, les amis. On est bien d'accord que c'est pas la mécanique qui compte. Mais ce que tu mets dedans. Donc, ta petite machine, ta petite bécane, elle va te sortir quoi? Elle va te sortir des scénarios possibles. Et ce qui est assez intéressant, par exemple, quand je dis scénario de guerre, c'est-à-dire, tu vas entrer ta data en live, tu vas dire, oh là là, on en est là, voilà, voilà le champ des possibles d'action sur le terrain. Et en fait, ça ne révolutionne pas, mais ça permet d'accélérer ou ça permet de fluidifier ou d'optimiser ta chaîne de commandement, ton command and control sur le terrain. Et quand tu es dans une guerre et que tu dois réagir très très vite, ça peut être d'une certaine utilité, on va dire, pour le moins. Après, attention, avec les difficultés que tu as pour tout algorithme, le risque de biais, d'erreur, de surpolarisation, de survisibilisation de telle data à l'inverse d'autres. Ça, c'est le côté, si tu veux, un peu... faut faire attention. Et pour revenir à la question du travail, donc celui du militaire, c'est en ce sens que l'expertise comptera toujours. C'est-à-dire que tu es là aussi pour vérifier la pertinence, la faisabilité même de ton output. D'accord ? Il ne s'agit pas de lui obéir de façon bête et méchante.
C'est là qu'intervient l'éthique aussi.
Et intervient exactement ton éthique, exactement où tu en es, etc. Et du point de vue de la doctrine militaire, un bombardement... Tu ne bombardes pas comme ça. C'est-à-dire que tu as un certain nombre de critères, mais tu as un certain nombre de...
Ça dépend quel pays.
Ça dépend où dans le monde, je te l'accorde volontiers. Mais en termes de doctrine, si tu veux, tu as un certain nombre de critères avant de dire j'appuie sur le bouton ou pas. Hein. En termes de dommages collatéraux, avec toutes les précautions et les guillemets qu'on pourrait y mettre. Qu'est-ce que c'est un dommage collatéral et à partir de quel seuil ? Donc l'IA, ça peut être très concrètement ça. Tout tes systèmes de backup, de traitement de data, transformation d'informations pour avoir des scénarios stratégiques, pour aller plus vite dans tes prises de décision, pour qu'à la fin, il y ait une prise de décision. Il y avait un cas où tu dis, mais en fait, il y avait 8 scénarios possibles qui étaient sortis par l'IA générative en Ukraine, et tu dis, mais en fait, c'est très cool parce que le général, l'homme, le général sur le terrain seul, n'en aurait peut-être vu que 5. Parce que lui-même étant un algorithme humain, d'une certaine façon, sur un champ de bataille, oui, c'est ça aussi, c'est qu'il se serait positionné sur son expérience personnelle, sur les conflits que lui a connus, sur son enseignement, sur ses études, sur ses réflexes propres. Tout d'un coup, l'IA peut aussi t'ouvrir le champ, ouvrir des angles morts qu'un esprit humain pris dans le feu de l'action n'aurait peut-être pas vu. Donc ça peut être de cette utilité-là. Après, donc c'est pour ça que je parlais de guerre de la vitesse. Après, l'autre méga enjeu qui lui est fondamentalement éthique, puisque tu en parlais, c'est la question des armes autonomes. Aujourd'hui, ce qu'on a sur le terrain, c'est plus officiellement en tout cas, je dis bien officiellement en tout cas, ce sont des armes semi-autonomes. C'est-à-dire que il reste un humain sur la boucle. Elles peuvent être automatiques, préprogrammées, etc., ce que tu veux, sans soldat à l'intérieur, mais tu as une possibilité d'intervention humaine à un moment donné. La difficulté qu'on a, le gros enjeu, c'est les armes totalement autonomes, ce qu'on appelle les SALA. Et là, la difficulté, c'est quoi? Très concrètement, c'est qu'une fois que tu l'envoies dans la nature, ton truc est parti. Tu sais plus ce qu'il devient. Tu n'as plus du tout de prise sur lui. Et donc, il suffirait qu'il y ait une erreur, qu'il ait confondu un bus d'enfant avec un tank. Et tu n'es pas à l'abri de ça, hein, pour qu'en fait, tout d'un coup, tu aies un crime. Au-delà du côté de la désincarnation de la guerre. Et à quel moment, du coup, la guerre ne devient pas un assassinat? C'est toute la question. Quand tu envoies, et ça réactive dans le narratif ce vieux rêve, si tu veux, de la frappe chirurgicale, tu te rappelles, Bush, etc. Et les années Bush aux États-Unis, et la guerre d'Irak, l'Afghanistan, enfin, Obama même avait utilisé des drones à l'époque quand il chassait Ben Laden. Mais la vérité, c'est que ce sont potentiellement des armes de destruction massive sur lesquelles tu n'as pas tellement de prise une fois qu'elles sont parties. Si elles sont mal entraînées ou surentraînées ou qu'elles ont forcément des biais, tu ne sais pas exactement ce que tu vas... Il suffirait qu'on ait un énorme accident, un scandale, que l'opinion publique à un moment donné se retourne et qu'on ait des réglementations. Mais je crains que, comme à peu près sur toutes ces armes-là, bactériologiques, les mines antipersonnelles, en fait, il faut que tu aies une méga merde pour que tout d'un coup, tu aies une prise de conscience généralisée. Là, tout de suite, on parlerait des armes autonomes dans la rue. Je pense qu'il y aurait une indifférence assez générale à la chose, tant qu'on n'a pas vu l'horreur que ça pourrait être sous nos yeux et tout d'un coup incarné par quelque chose. C'est un peu... Ça pourrait se passer autrement. Attention, les États-Unis en parlent beaucoup dans leur l'administration, en tout cas dans leur doctrine. La Chine aussi. On a eu le forum international sur les armes autonomes en février 2023, donc à La Haye, donc il y a une espèce de prise de conscience. Tu as des notes de partout, tu as des warnings de partout, l'OTAN, l'ONU, etc. Mais le contexte mondial dans lequel on est, cette fragmentation géopolitique de l'échiquier international, cette rivalité entre États-Unis et Chine qui fait que c'est moi qui a la plus grosse, fait qu'on est malgré tout en train d'y aller et que je crains que si on regarde encore une fois dans notre rétroviseur, qu'il faille attendre l'accident pour qu'enfin on réglemente de façon musclée et radicale.
Finalement, tu vois, on revient à la réglementation européenne.
Et tu as raison. Et c'est là où l'Europe a peut-être un truc à jouer en termes de soft power et d'existence propre. Tu as absolument raison de se dire, mais elle n'est pas encore en train de tout à fait jouer sa partition, d'anticiper et de devenir un peu... On a beaucoup parlé du Brussels Effect avec le RGPD. Je sais que tout le monde s'engosse en Europe, pardon, mais dis-moi où le RGPD a essaimé dans le monde.
Je crois qu'aux États-Unis, il n'y a pas eu des trucs.
Un peu en Californie, en inspiration, mais où dans le monde, on se dire le RGPD du matin au soir. On est en train de vénérer la déesse RGPD du matin au soir. Enfin, pardon, enfin, bon. Mais Bon, mais en termes de soft power et d'influence normative, oui, l'Europe devrait vraiment se muscler et sur des sujets clés, c'est-à-dire vraiment des enjeux qui sont d'un point de vue éthique, juridique, politique, humain. Humain, parce que là, on parle de vie humaine. Hein. On ne parle pas de mon prompt, je l'ai foiré et j'ai sorti une image de merde. Non, on est en train de parler de vie humaine, par dizaines, par milliers. Donc, à partir de ce moment-là, comment est-ce qu'on pense ces choses-là? Ce n'est pas un impensé. La discussion a été prise. En revanche, ce sont des guidelines et en fait, ça ne crante pas réellement pour le moment.
Mais est-ce qu'à l'image de l'arme nucléaire, il ne devrait pas y avoir une entente mondiale? Parce qu'en fait, on a commencé là-dessus d'ailleurs.
Ouais.
C'est tout le problème. C'est que aujourd'hui, tu as des rivalités. Alors, tu as parlé de co-compétition.
Co-compétition.
Compétition.
C'est une espèce de mix entre coopération et compétition.
Mais est-ce que ce n'est pas contraint, obligatoire, quand tu as des IA qui peuvent avoir des impacts aussi importants, pour le coup?
Il faudrait. Je t'ai dit là, tout à l'heure, en novembre 2023, il y a eu le sommet de Londres, déjà, au tout début du mois de novembre. Voilà, pour essayer de faire parler un peu tout le monde, de trouver des règles du jeu sur les questions de sécurité. En fait, on parle de sécurité, là, internationale et nationale. C'est de ça qu'il s'agit quand on parle d'IA dans le champ géopolitique. Il ne s'agit pas de mon prompt ou tel le super patron de l'IA de super quelle boîte qui t'explique. Non, on parle de choses extrêmement concrètes et prosaïques de terrain. Donc, c'est pas de la poésie et c'est pas de la littérature. Et ce n'est pas du narratif. Donc il y a eu le sommet de Londres qui a commencé à mettre un peu ces sujets-là. Tu as le décret de Biden qui parle beaucoup de sécurité nationale et de sécurité des IA. Il y a ce téléphone rouge, d'une certaine façon, qui serait peut-être réactivé entre États-Unis et Chine sur la question de l'IA, j'entends, suite à leur rencontre au sommet de novembre, toujours 2023. Est-ce qu'il le faudrait ? Cette conversation internationale, un organisme multilatéral, l'ONU évidemment essaie de s'en emparer, mais tu as aussi des velléités, par exemple la Chine, de se dire il n'y a aucune raison que ce soit les États-Unis qui préemptent la discussion, il n'y a aucune raison que ce soit ces organisations internationales, disons pro, je ne sais quoi, qui préempteraient. Donc je vais créer mes propres autorités de régulation de l'IA. Mais donc, il ne faudrait pas qu'on soit dans une concurrence normative permanente aussi. Il ne faudrait pas tomber dans ce travers-là. Il faudrait, oui, qu'il y ait une conversation globale, internationale, qu'on se parle et qu'il y ait tout le monde autour de la table, y compris d'ailleurs l'Afrique dont on parlait et toutes les zones particulièrement sensibles. Est-ce qu'on y est ? Non. Aujourd'hui, où est-ce qu'on est dans l'histoire ? On est au milieu du guet. Toutes les options sont encore possibles. En revanche, tous les paramètres ne sont pas clairs de l'équation géopolitique ou politique qui est en train de se jouer. Nous manque comme information qui sera le prochain président des États-Unis. C'est une information fondamentale. Nous manque la question de où vont les démocraties européennes. On n'a pas l'information. Donc ce sont des paramètres fondamentaux qui vont décider des chemins qu'on va suivre.
Tu parles de politique. J'avais une question sur les institutions internationales et sur leur rôle. Moi, je crois qu'elles n'ont plus trop d'impact. En tout cas, l'ONU, on voit bien à quel point ça, ils tournent dans le vide, quoi. Enfin, ils font des très belles déclarations, cela dit, mais ça n'a pas vraiment d'impact. Et je me posais la question en t'écoutant. Je me disais, mais est-ce que... parce que la seule valeur de du monde occidental, c'est l'argent. Finalement, on n'a plus vraiment de système de valeurs, en tout cas difficilement. Est-ce que les politiques ont vraiment encore un rôle à jouer dans un monde qui, de toute façon, est géré par des entreprises privées ?
Dans Technopolitique, en tout cas.
Ton livre, que je n'ai pas lu.
Mais que je vais te donner très vite. Dès la prochaine fois, on se revoit. Parce que j'ai été complètement nulle. Et j'ai été complètement... Et tu ne m'as pas écrit.
C'est ma faute.
Génial, il faut le dire, c'est que là, c'est vraiment... Vraiment, vraiment c'est du live. Hein, donc, ouais. C'est une discussion qui est vraiment une espèce de substantifique moelle de...
Mais je ne suis pas trop loin du livre, si. Enfin, j'imagine
tu es pile dans le livre.
Ah, tu vois.
Tu es pile dedans. Et bravo pour cette omniscience extraordinaire. Non, mais dans Technopolitique, pour de vrai, vraiment pour te répondre, et il n'y a pas une question à jeter, Grégory. Franchement, je suis hyper impressionnée pour de vrai.
C'est gentil.
C'est ouf. Et c'est éreintant parce que je suis à un niveau de stress cognitif maximal. Je dois tout donner là pour me faire pardonner.
Je te donne un verre d'eau.
Oh oui, parce que je sens la corde vocale asséchée.
Asséchée. Bah ouais.
Pour te répondre, moi dans Technopolitique, je parle du retour de la société politique. Non pas les sociétés civiles, hein, tu sais, les quelques représentants qui vont aller essayer de défendre tel ou tel combat. Non, c'est le retour d'une société politique, avant même de parler de personnel politique. C'est-à-dire que ce sont des questions qui doivent être à la portée de tous, parce que c'est notre affaire à tous et toutes. Tous et toutes. Et toutes. Et donc, ça commence par toujours ce step back, prendre un temps de retrait, traiter les choses à froid, comprendre qu'on est dans un tel emballement, dans une telle accélération, que c'est évidemment l'inverse qu'il faut faire. Essayer de comprendre l'histoire qui est en train de se raconter. Essayer de comprendre où est notre rôle à nous tous, individuellement et collectivement. C'est ce que j'appelle la société politique. Comprendre aussi que ces technologies, on parlait des IA militaires, ce sont des technologies duales qui sont toutes à la fois civiles et militaires. Et que de ce point de vue-là, nous avons tous un rôle à jouer. Et il ne faudrait pas qu'il se joue à notre insu. Il ne faudrait pas qu'on devienne soldat malgré nous par les réseaux sociaux comme espace d'influence et de manipulation. On a beaucoup parlé de TikTok à un moment donné, mais pas, ou Cambridge Analytica encore avant, la reconnaissance faciale, les implants Neuralink de Elon Musk. Il ne faudrait pas que tout ça se joue sans nous. Ou nous ne serions que la denrée, et même pas rare, de ça.
C'est ce qui est en train de se passer. Hein. En fait, j'ai l'impression, quand je t'écoute, ça me fait penser aux élections européennes qui sont essentiel,
ouais,
et où personne ne va voter.
Mais t'as vu que Renaissance, ils n'ont même pas daigné avoir une tête de lit, ils n'ont même pas commencé la campagne.
Hein. Donc en fait, je me dis, sur les points essentiels, je ne sais pas exactement d'où ça vient, est-ce que y a, tu vois, cette règle journalistique que tu t'intéresses vraiment, ce qui te touche le plus proche, mais en fait, le problème, c'est que ça va à l'inverse de notre cerveau, c'est-à-dire que le problème, c'est que notre cerveau, il fonctionne comme ça. En fait, on s'intéresse à ce qui nous touche directement, mais ce qui nous touche directement, c'est des choses qui sont méta, enfin, tu vois, très haut, sans faire référence à nos amis Facebook. Et je pense que là, il y a un petit problème de cognition, oui, parce qu'on n'explique pas aux gens non plus, ou on explique mal, ou en tout cas, ils ne comprennent pas, ou je ne sais pas exactement. Parce qu'ils sont aujourd'hui, et moi y compris, enfin tout le monde, hein, c'est pas les autres et moi, mais dans une sorte de... Bah, c'est comme, enfin, tu vois, on est victime, ou en tout cas, je ne sais pas victime, mais juste un usage de ces technologies, quelque
oui.
part.
Et en fait, c'est un peu le... Je ne sais pas si c'est ça l'expression en français, mais le chat qui se mord la queue, c'est-à-dire que...
C'est totalement une expression française.
C'est la bonne, hein, c'est le chat qui se mord la queue. Hein. C'est pas un autre animal. donc c'est un peu le chat qui se mord la queue, ou de la poule et de l'œuf même, j'irai plus loin.
Est-ce que c'est pas le chien qui se mord la queue ?
Je ne sais pas.
Je crois que c'est un chien qui se mord la queue.
C'est le chat qui se mord la queue. Pas vrai ? Enfin, celle-là, cette expression-là.
Cet animal-là.
Ces technologies, donc de l'hypervitesse, moi, je n'utilise évidemment pas les mots ni numérique, ni digital, ni rien du tout. Et même pour mes étudiants, c'est presque interdit, pour tout te dire. Mais en fait, il y a une telle surabondance de tout. Ça va tellement trop vite qu'on ne sait plus où mettre l'attention. Et donc, c'est ton hygiène personnelle à te dire, OK, à un moment donné, il ne faudrait pas qu'on tombe dans le risque de cette fameuse fatigue ou usure. Non, il ne faut pas qu'on soit fatigué. Il faut au contraire qu'on soit beaucoup plus malin que ça. Et ça, c'est une hygiène, un réflexe à nous autres. Et tu as raison, personne ne le dit ça aux Français. De se dire, OK, il y a tout ça. J'ai compris ce qui est en train de se jouer. Dès l'instant, c'est très clair. Dès l'instant où tu comprends ce qui t'arrive, tu sais beaucoup mieux naviguer en eau trouble. Donc, la première chose, c'est comprendre. Cette conversation qu'on est en train d'avoir, toi
c'est
et moi...
C'est le but. C'est tout le but du podcast, de manière
exactement,
générale.
Exactement. C'est comprendre. Waouh. OK, donc c'est en fait ça qui est en train de se jouer. OK, moi, je suis là dans cette histoire. Et tout d'un coup, cette conscience de soi, cette conscience de ce qui est en train d'arriver, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Parce que c'est, si on reprend, si tu veux, le best-seller de Daniel Kahneman, c'est ce qui fait que tu vas passer du système 1, exactement ce que tu disais, c'est-à-dire le circuit heuristique, c'est-à-dire mes émotions, mes cognitions, mes biais, mes croyances, à « waouh, je prends ces 3 secondes, ou maintenant, nous, notre petite heure.
» Et je passe au système 2.
Voilà, il est passé au système 15. Et là, et donc, arrivé à mon système 2 ou 15, eh ben, je me dis « OK, j'ai l'image. Et je vois à peu près où je me situe dans cette image-là. Et donc, je reprends d'une certaine façon mes armes. Je reprends mon souffle, ma respiration. J'y vois plus clair. Voir clair dans des eaux troubles. Hein, parce que le 21e siècle, ça va être un siècle gris. Ni guerre, ni paix. Ni civil, ni militaire. Ou tout à la fois. C'est tout est civil et militaire. C'est public et privé. C'est virtuel, réel. C'est faux, c'est le vrai. Et donc, dans cette ambivalence, dans cette symbiose permanente, comment je navigue là-dedans ? Comprendre. Comprendre que c'est symbiotique. Ça, c'est la première chose. Ensuite, une fois que tu as compris, bah, il ne faudrait pas tomber dans la fatigue, dire « fuck off, j'arrête tout, je lâche l'affaire ». Non, c'est de se dire « ok, je choisis. Je choisis quand je mets mon attention, à qui je la donne. C'est un choix. » Ce que l'algorithme ne fera jamais. L'algorithme décide, l'algorithme ne choisit pas. Le choix, c'est nous. En conscience, en fonction de nos paramètres, en fonction de ton humeur, de ta journée, de ton état émotionnel, de ta fatigue physique et cognitive réelle. Mais c'est reprendre le pouvoir sur soi. Ça, c'est fondamental. C'est ça, une société politique. Et puis ensuite, oui, on a un problème de personnel politique, c'est clair. C'est clair et c'est net. Et là, je n'ai pas de solution magique. Je n'ai pas de baguette magique. Est-ce qu'il va falloir qu'on atteigne le fond pour qu'à un moment donné, on rebondisse ? Peut-être, je ne sais pas.
Malheureusement, j'ai l'impression que oui. Le podcast s'appelle Vlan. Donc, je voudrais savoir à quoi tu veux. On pourrait continuer cette conversation assez longtemps.
Ouais. En vrai, sans fin. Un jour sans fin, tu sais.
Ça, elle va regretter d'être venue, tu sais.
Alors, le nucléaire.
Alors, attends. Non, parce qu'en fait... Non, mais en plus, j'ai d'autres questions. Le pire, mais bon, ça fait un petit moment qu'on se parle.
Mais il ne faudrait pas les saturer.
C'est ça, les pauvres. J'y pensais en écoutant. Enfin, en t'écoutant, je me dis, oh, c'était un peu intense, quoi. Désolé d'avance. Pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici.
Ouais, ceux qui sont arrivés jusque-là. Franchement, gars, bravo.
Bravo.
Les
merci,
amis,
bravo,
merci.
Bravo. Merci de votre attention. Le podcast s'appelle Vlan, donc je voudrais savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte.
Je veux claquer la porte au XXe siècle. Et ouvrir celui, enfin, franchir le cap du XXIe siècle. Et je termine le livre là-dessus, franchir le cap, changer de siècle. Ça veut dire changer de lunettes, comprendre les nouveaux dogmes, finir avec les anciens paradigmes, accepter ce qui est en train de se jouer pour le contrôler.
Parfait. Merci beaucoup, Asma.
Merci, Grégory.
Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg From Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt !